Ah, ce qui est sûr, c'est que le catering, c'est une restauration tout à fait particulière.
Grosse caisse claire.
Ah, crise, belle crise, bravo.
C'est pas du rock, ça. C'est pas ça, le rock.
Yaka Nakamura.
C'est ça, le rock.
Con.
Yes, sir.
Ah, c'est le signal pour la soupe, Sam.
Bonjour à tous et bienvenue au catering. Au menu aujourd'hui, nos dernières découvertes musicales. On n'oublie pas la seule règle à table, ne parler que de morceaux, d'albums ou autres supports musicaux sortis il y a moins d'un an. La seconde règle, tous les types de musique sont acceptés, sauf le reggae. Et la troisième règle, on ne met pas les coudes sur la table. Enfin, la dernière règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, évidemment.
Grosse caisse claire.
Aujourd'hui, je suis accompagné de Steven, Léo et Simon. Bonsoir les gars.
Bonsoir.
Quentin.
Alors, comment allez-vous ce soir? Des petits concerts qui vous ont fait vibrer récemment ou autre chose?
Bah écoute, tout va bien. Tout va bien. Des concerts récemment.
C'est l'hiver. C'est l'hiver. On va pas en concert l'hiver.
Si, on va en concert l'hiver.
Non, il y a moins d'une semaine. J'ai pas eu de concert. Ça fait longtemps que j'ai. Putain, je sais même plus le dernier concert que je suis allé voir en vrai. Ah si, November Ultra.
Et c'était bien? Avant les victoires ou après?
Avant les victoires, pour le coup. Et non, c'était cool.
Qu'est-ce que j'ai vu depuis moi? Moi j'ai vu dimanche un concert jeune public qui était très beau. C'était superbe. C'était une musique un peu bretonne, un peu Triane, tout ça, c'était sympa.
Ok, bah moi de toute façon j'étais en tournée donc j'étais pas là.
Triane pour enfants.
Triane pour enfants, alors fameuse tournée. Yes, en première partie.
Mais t'as vu des concerts en tournée du coup?
Bah non, c'était une tournée de jeunes publics. Donc j'avais un spectacle de jeunes publics.
Ah, tout s'explique. Oui. Eh bien, c'est parti les gars et bienvenue à tous au catering.
La musique, c'est la rencontre, l'amour, l'échange, le partage, le bonheur d'être ensemble.
Pour démarrer ce tour de table, je vais laisser Léo vous présenter son artiste.
Bon, du coup. Je sais pas trop par où commencer, parce que en fait, on sait pas grand-chose sur Redolent, I don't know how to pronounce that. Ils ont sorti un premier EP il y a quelques semaines, une playlist avec les influences de l'EP en question, 2-3 reviews en anglais par-ci par-là, où on apprend qu'ils viennent d'Édimbourg. Le projet est porté par deux frangins, qui sont 5 dans le groupe, blablabli, blablabla. Une programmation au South by Southwest aux États-Unis en mai. Pour ceux qui n'ont peut-être pas la référence, très gros festival à Austin de toute la musique indépendante du monde entier. Vraiment très très chouette, faut éplucher cette programmation, c'est vraiment super. Et on les retrouve aussi dans le top 100 de NMA, un magazine anglais, dans le top 100 du coup des groupes à suivre en 2023. Voilà, donc intéressant, mais pas masse d'infos. Donc je me suis dit qu'on allait éplucher la playlist de leurs influences. Alors attention, name dropping dans 1, 2, 3. Alors, Mount Cambie, Brockhampton, Bombay Bicycle Club, Death Grips, Charlie XCX, Clairo, Justin Bieber, Animal Collective, Algie, Tom Veitch, Aphex Twin, Young Father, King Krull, Vampire Weekend, Nirvana, 1975.
Cherchez un truc quand même.
Cherchez un truc, Nirvana, 1990, voilà. Il y en avait d'autres, il y a Talking Heads aussi, mais bon, j'ai pas parlé de tous.
Je pensais à Justin Bieber surtout. Mais...
Ah ouais, bref, t'as comme quoi.
J'ai eu très peur au début de la liste, j'en avais pas un.
Ouais, c'est pour
j'allais
ça
obligé de faire semblant.
J'en ai mis quelques-uns quand même un peu plus
tout ce qui est anglais, de toute façon c'est leur référence quoi.
Mais donc voilà, donc on peut y retrouver une multitude d'influences, donc allant de l'électro du coup de Mount Cambies, un super groupe anglais, au rap boys band de Brockhampton, vraiment nouveau fer de lance du rap mais qui vient de splitter. C'est con, après 5 ans d'existence et tous les plus gros stades du monde entier en première partie de Kendrick Lamar et consorts, à la pop, très très pop de Justin Bieber, et à l'hyper pop de Charlie XCX. Mais on retrouve surtout quoi? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce top de groupe
d'influence?
D'influence.
Bah, les trucs indés, hein, globalement quand même.
Ouais, Et comment on appelait l'indé avant?
Avant quoi? Avant Covid?
Ouais, bah avant. Avant en tout cas. Du coup, genre, tu sais, tous les Animal Collective, les Vampire Weekend, les Talking Heads, etc. Bah, c'était.
Alternatif.
L'alternatif, l'alternative et ses prémices, du coup. Ce genre fourre-tout des années 2000-2010, où on peut très bien s'y voir côtoyer Algie, du coup, cité plus haut, qui, à mon point de vue, clôturait un peu cette ère de l'alternative en tant que style musical, genre musical. Des groupes comme Fall Out Boy, Gorillaz, Coldplay, Weezer ou encore Radiohead, qui pour le coup, à mon avis, l'ouvrait avec son immense Kid A. Et tous ces artistes qui ont le genre musical dans lequel on les a foutus en lien, à première vue. Mais, je trouve, on la sent vraiment cette influence temporelle dans la musique de Riddle Hunt. Et a priori, c'est des gens qui ont grandi à cette époque et qui, comme moi, sont construits musicalement durant leur adolescence avec cette musique. Puis, ils ont ajouté tout ce qu'ils ont pu, en tout cas, en plus. Des voix vocodées à la mode nouvelle vague hip-hop post-Kanye, du break à la Square Pusher, et j'en passe, et les meilleurs, forcément, pour donner ce superbe EP, Make Big Money Fast Online Now, qui me touche énormément parce qu'il me réconcilie avec ce que j'écoute, ce que j'écoutais ado et ce que j'écoute maintenant. Donc un EP multigenre ou non genré, qui voudra, et sûrement multigénérationnel, car 15 ans nous séparent avec la personne qui me l'a fait découvrir. En tout cas, écoutez-le, écoutez la playlist qui va avec, car elle est aussi bien. Et puis bon, après tout ça, on n'en sait pas beaucoup plus sur Riddle Hunt, mais c'est pas si grave, on sait que c'est bien et qu'il y a de grandes chances qu'il fasse beaucoup d'argent vite sur le net maintenant. En tout cas, je ne leur souhaite que le meilleur. Scratch that will sort us out. I'm telling you, maybe. Voilà. Bon, du coup, pour ceux qui n'avaient pas la phrase, la punch de fin, du coup, c'est juste la traduction du nom de leur EP, quoi. Make money fast online now, quoi. Voilà, c'est juste ça.
Tout s'explique.
Et oui, tout s'explique.
C'est mortel. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et peut-être parce que tu l'as bien, bien amené aussi au début, mais du coup, on l'a écouté avec une autre oreille aussi. C'est vrai que j'avais écouté quelques petits morceaux avant de réécouter là, et ce que je disais rapidement là pendant qu'on écoutait le morceau, il y a un morceau qui me faisait penser de ouf à un gros mélange entre Kyo, The Bewitchens, et ce morceau-là, il y a clairement la voix de Justin Bieber, enfin en tout cas les petites vibes de chant. Et ouais, ça passe dans toutes les influences, c'est hyper
complètement hyper cool. Quoi. Je pense qu'il faut vraiment aller écouter la playlist, parce que du coup, quand... un pote m'a fait découvrir un morceau, quoi. Et genre vraiment, moi tout de suite, ça m'a hypé de ouf. Mais c'est vraiment en allant piocher dans la playlist où j'ai fait « Ah ouais, alors ça, en fait, ils l'ont piqué là. » Enfin, tu vois, ou en tout cas, ils sont influencés là-dedans. Tu sais, quand tu vas vraiment écouter tous les morceaux, t'es là « Ah ouais, en fait, les influences, elles vont dans tous les sens. » Et du coup, je me disais aussi, est-ce que c'est l'essence de tous les groupes maintenant, en 2023, à faire ça, en fait ? Est-ce que... ils doivent se cantonner à un seul genre musical ou justement aller chercher à droite à gauche des trucs justement comme cité avant Brockhampton qui font du rap US à la base qui est enfin classique disons, ils sont allés piocher dans plein de styles, je pense qu'ils s'influencent autant par des Pharrell Williams que par des Justin Bieber pareil en fait. Est-ce que voilà maintenant la musique c'est juste des styles comme il y a 10-15 ans où en fait c'est la musique en général et tout le monde va piocher chez les autres quoi.
Bon, ça fait un moment que c'est comme ça.
Oui.
Ça fait un moment que tu vas aller chercher tes influences à droite à gauche, que
bien
tu
sûr.
Que tu mixes un peu tout. Après, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que du coup, cette période-là, Alt J, tout ce truc-là, moi, ça fait longtemps que je les écoute plus.
Ah,
et
oui.
Pour le coup, j'ai trouvé ça daté. En vrai, j'avais un peu ce truc déjà entendu. Même si, ok, tu prends plein d'influences partout et c'est hyper intéressant à écouter, j'irai réécouter de manière bien un peu plus attentif, évidemment.
Mais grosse erreur d'avoir écouté Alt J, d'avoir arrêté Alt J.
Ah oui, non, mais certainement. Certainement. Mais à un moment, faut. Voilà,
je le dis droit dans les yeux.
Faut évoluer. évoluer hein. Non, même si c'est. Ok, j'ai pas totalement arrêté, en vrai.
Mais oui, je vois le truc daté parce que vraiment, je pense que les influences, elles sont datées, quoi. Et il y a ce truc, ça se ressent. Mais pour autant, je trouve qu'ils y amènent un peu une nouveauté, quoi. Un truc un peu 2023, quand même.
Non, bah, j'irai réécouter. En vrai, j'irai prendre le temps de réécouter pour le reste. Parce qu'à la première écoute, j'aurais pas peut-être pas gratté un peu.
Oui, oui.
Mais c'est vrai que maintenant que tu dis ça, Steven, que ça fait un peu daté, c'est vrai que quand j'ai écouté, ça m'a fait penser à quelque chose, mais je savais pas dire, dire quoi, en fait.
Ah, oui.
Et du coup, c'est vrai que quand je vois toutes les influences et le côté alternative musique, c'est vrai que ça fait un peu penser à ça. Après, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est quand même les rythmiques que je trouvais hyper entraînantes. Enfin, ça avance, quoi. Mmh. Et en même temps, il y a ce côté un peu cosy, chaleureux. J'étais un peu tiraillé dans mon écoute, on va dire.
Je suis curieux, du coup, t'as d'abord écouté le morceau et après, tu t'es renseigné sur les influences.
Ah ouais, complètement, ouais.
Moi, le
morceau m'a hypé, mais après, moi, j'ai un problème avec toute cette scène, quoi. Genre, je suis un grand fan de Weezer alors que tout le monde déteste ce groupe. Voilà. À un moment, voilà, je pense qu'il y a un problème. Moi, j'adore ça. Après, voilà, je pense que c'est pas fait pour tout le monde, quoi. Mais il y a quand même un truc, c'est que au-delà du. Pour le coup, le groupe, au-delà musical, ils ont un vrai propos aussi visuel qu'on retrouve dans leurs clips ou dans leurs lives, en fait. Que du coup, bon, là, à la radio, désolé, on va pas vous remontrer. Mais allez checker clips et vidéos live où il y a des vraies installations scénographiques, il y a des vraies idées en clip. Et du coup, ça match aussi bien le propos du groupe, je trouve. Et du coup, ça, des fois, ça peut peut-être aider à comprendre aussi le truc un peu alt music, etc., quoi.
Algi, on y arrive.
Delta.
On touche à un point, je pense qu'il y a un sujet hyper intéressant qu'on pourra aborder une fois dans une émission, c'est le lien image-son.
Complètement.
Que je trouvais hyper cool d'aborder, on n'a pas le temps là. Mais...
C'est vrai que l'image à la radio, c'est quand même quelque chose qui passe,
ouais, bien, qui passe difficilement.
Je pensais que tu avais parlé du point Goldwyn. Hein, c'était compliqué.
Eh bien, merci beaucoup Léo pour cette découverte de Redolent.
Avec plaisir.
La musique, c'est la rencontre, l'amour, l'échange, le partage, le bonheur d'être ensemble.
Continuons cette discussion avec Steven. Je te laisse nous présenter ton millésime.
Millésime, carrément.
Ah oui, j'y okay. crois, j'y crois.
Ok, why not. Alors moi, je vais vous parler d'un groupe qui sort son, qui vient de sortir son quatrième album. Le seul pour l'instant auquel j'ai clairement porté intérêt. J'avais écouté les précédents, bah, pas accroché plus que ça. Pareil, un peu au départ, un peu daté, un peu classique et pas plus. Et celui-là m'a foutu une bonne bastos. En vrai, il s'agit d'Algier. Est-ce qu'il y a un groupe Algier. Algier. Ouais, il y a un truc. Hein. non, c'est un groupe de post-punk, hip-hop, spoken word, jazz, ambiante, brutisme. En vrai, ça parle dans tous les sens. Comme on disait tout de suite avec Léo, très clairement, je pense que là, les groupes sont plus partis à aller chercher un style. Ils vont chercher partout dans tous les sens et ils savent bien s'entourer pour réussir à faire ça bien. Ils sont originaires d'Atlanta, aux États-Unis. Et donc, l'album, comme je disais, qui s'appelle Choke, est sorti le 24 février. Donc, il y a quasiment à peine 4 jours, grosso modo. Cet album, il est hyper sombre. Je l'ai écouté un soir, il devait être minuit. Je n'arrivais pas à dormir, j'étais avec mon casque. Particulièrement sombre, particulièrement chaotique, et pourtant je sais pas pourquoi, quand j'ai enlevé mon casque et quand je suis allé me coucher, il y avait un espèce de petit espoir un peu d'un truc, tu vois, le post-apocalyptique, mais une happy end, il y a un truc qui va bien se finir, quoi. Peut-être que ce qu'ils jouent là-dedans, c'est qu'ils ont réussi à rassembler une vraie communauté autour de leur musique qui correspond à leurs idéaux. En gros, c'est que des gens qui partagent leur vision et de la musique et de la communauté et de la société en règle générale. Sur 17 morceaux, il y en a 13 qui sont en featuring, ce qui est quand même assez rare pour un groupe de rock, entre guillemets. On l'a surtout sur le rap de plus en plus, et ça a globalement toujours été, mais clairement de plus en plus là-dessus. Ils essaient de jouer là-dessus. Ils ont réussi à créer, grâce à ça, un son qui est un peu unique en mélangeant ces différentes influences là. En vrai, la première écoute, moi je me suis dit, allez, c'est un mélange de Liars, Idols, Jit Scott et Ron, un espèce de truc comme ça qui est, voilà, qui parle dans tous les sens et qui crée ce truc qui est hyper intense, qui est hyper émotionnel, et comme je disais, sombre et chaotique.
Et pas du tout à Outcast, qui vient aussi d'Atlanta.
Eh ben écoute, pas tant, ouais. Un petit peu, mais pas tant, non. Je l'ai pas retrouvé dans le truc, non. Clairement pas. Mais bon, tu me rediras quand tu auras pris le temps d'écouter.
Ouais, complètement. Pour les morceaux que j'ai écoutés, il y a quand même pas mal où il y a du hip-hop, et du coup, ça,
ouais,
on sent quand même l'influence d'Atlanta sur le truc.
Ouais, mais ça, c'est pas du hip-hop à Atlanta, c'est New Yorkais, les Canadiens, oui.
Ouais,
mais
tu vois, je savais pas du tout qu'il venait d'Atlanta avant que tu le dises, et j'ai fait... Ah ouais, d'accord, il y a peut-être un lien. Voilà.
Bah écoute, why not, mais je ne l'ai pas, enfin, en tout cas, je ne l'ai pas retrouvé. Ou alors, je n'ai pas assez écouté Outcast, ce qui est aussi possible. Clairement.
Énorme groupe.
Donc, grosso modo, pour juste faire un petit panel rapide des featurings qu'il y a dans cet album, on a quelques grosses restas. Zach De La Rocha de...
Jungle The Machine.
Merci. Samuel T. Herring, attention, plus compliqué.
Ou j'ai pas.
Alors ?
D'Atlanta.
Ben non, il est même pas américain.
New Orleans.
Future Island.
Ah, mais oui, en plus, bah, en tant que grand fan, c'est sûr que voilà.
On a le rappeur new-yorkais Billy Woods, qui est la moitié du duo Armand Hammer, que clairement en grosse hype sur le rap américain en ce moment. Et il y a des têtes totalement inconnues dont j'avais jamais entendu parler. Une certaine Nada El Shazly. Vient du Caire, et clairement je suis allé un peu vérifier à droite à gauche ce qu'elle faisait. Elle a sorti un EP, par contre elle passe partout, South by Southwest elle y est aussi, elle a fait le Best Keep Secrets Festival, ouais. Pays-Bas, pareil, grosse révélation, clairement truc à suivre, ça va être, et c'est, l'album est hyper beau, donc, pour une prochaine chronique.
De ouf.
Voilà, donc je vous laisse avec le morceau qui s'appelle Beat Back, et en featuring avec Billy Wood et Back X Watch.
Say they moved out, but they're still around, and they move even stronger now. All in plain sight. There's stone mountains, false idols, and town halls are still standing. And planted in your point of view, wrapped around the words you use.
When you want those sands are running out, they tell you slow down.
If you want cooperation.
rush to face. Centrifugal force and inertia keep everything in its place. Slowly spinning in space, speed, left foot on the brakes. Metal face, cheating's just how you play. Strange ways, Monopoly, Candyland, life's just a game. Count your money at the end, bro. On one hand, count your friends. Ghosts float about the wall, cold, come get your mans. Babylon system is the vampire once you let him in. Police at the door knocking again and again. Claws rattling, delicate as roaches' wings. Sweet saccharine dopamine pour out the screens. Distant gunfire crackling, the whole thing cracking at the seams. Single action, cats get pressed and sting. The machine is self-claimed. The nightmare is you in somebody's dream.
Yeah.
Et donc voilà, c'était Algiers. J'espère que ça vous a plu, que vous avez kiffé. Et en gros, pour que je voulais finir quand même, c'est un groupe. Alors il y a peu de choses à traîner sur Internet. J'ai essayé de fouiner quand même un peu à droite à gauche. Je suis allé essayer de traduire les textes aussi. Google Trad est mon ami pour ça.
C'est pas ChatGPT ?
Non, pas sur ce coup-là pour le coup. Je suis pas allé là-dessus. Et grosso modo, c'est un groupe qui rassemble quand même pas mal de contre-cultures. On a des vrais appels à l'unité, des vrais appels à la résistance contre toutes les injustices sociales, a rappelé aussi le leader est noir et le sait très bien, elle l'affirme et l'assume et clairement le défi se définit comme tel et ça fait du bien aussi à entendre à un moment ou à un autre, donc avec des paroles qui sont très engagées, autant sur la diversité sociale que sur la diversité musicale, comme encore une fois font preuve tous les feats avec qui ils ont bossé.
Et bah quoi dire après ça. Bah non mais c'est vraiment super, pareil, j'y ai vraiment jeté une oreille avant l'émission pour voir un petit peu de quoi ça causait. Et il n'y a rien qui se ressemble dans l'album, enfin, c'est un pêle-mêle de morceaux, bah, en tout cas pour le peu que j'ai écouté, creusé disons, mieux les uns que les autres quoi. Et non, ouais, c'est, enfin, moi je trouve ça vraiment cool, quoi. Et ce morceau, même s'il dure 6 minutes, on voit pas le temps passer, quoi. Enfin, ça ne fait qu'évoluer. Ça va dans un truc hyper dark, un truc hyper posé à la fin.
T'as plusieurs morceaux en un, quoi.
Complètement, ouais. Plusieurs morceaux en un, enfin, c'est vraiment super.
Il y a des morceaux qui sont slamés, il y a des trucs, trucs magnifiques. Il y en a une qui. La Toya, alors ça, clairement, j'ai cherché. La Toya Ken.
L'Ayatollah,
non. La Toya Ken, j'ai cherché. C'est un des featuring qu'ils ont sur l'album. Impossible de trouver quoi que ce soit sur
qui
elle.
Sait, quoi.
Sur Internet, savoir qui c'est exactement.
Je trouve ça un sample.
Non, elle a une pure voix. C'est en spoken world, c'est magnifique et impossible de trouver, quoi. Donc il y a vraiment ces pointures-là de la Rocha et la Toya Ken. Voilà.
Ouais, trop bien, la diversité quoi, finalement quoi.
C'est ça.
Du coup moi ça m'a fait penser à un truc et désolé à la régie, c'est pas du tout de quoi on a causé parce que je viens de m'en rappeler et du coup c'est tu peux taper donc
pas
le
trop
groupe
fort, pas trop fort.
S'appelle Bless. Ça s'appelle Bless mais sauf que ça s'écrit 8 1 3 5 5. Ouais, ils font complexe les mecs, les Camelops. Américains, ils peuvent pas faire, tu peux mettre n'importe quel morceau, et c'est vraiment super, en fait ça m'a fait penser à ça vachement au début du morceau, un truc assez dark, hip-hop assez dark, et du coup Bless, c'est un groupe qui vient du Michigan, de Minneapolis, et qui est produit par People, le label de Justin Vernon de Bon Iver. Avec les frangins de Dessner de The National. Voilà, ça n'a aucun sens. C'est du hip-hop produit par des mecs qui font de la folk. Et c'est vraiment hyper chouette. Just another rain dance, black kids smoking in the backyard, blazed out, playing with matches. Hanging with the same damn misfits who be trying to act hard, they be staking out with the cash. Pigs in the blank and what the blocks to fall. Lately we just waiting for some options though. Lately we just waiting for the cops to show. Lately we just waiting for the crops to grow, but fuck that. Niggas can't stand it, we just eating what we playing from the garden. Winning hard and we gon' strip it from the roof. Burning down trees, smoking that forbidden fruit. The descendant of the truth and I'm living fucking proof. Just a wolf that evolved from a lion to birth. Du coup, petit truc à la régie, les gestions Spotify sont jamais simples quand on change de morceau à la dernière minute. Pardon, excusez-moi. Du coup, on peut envoyer le second morceau. Dark and it was light. I was wrong and I was right. I was purging all my demons. It was certainly a fight. In the desert, ain't no water, ain't no nourishment in sight. Ain't no peasant to the slaughter, raised by mercenary minds. You could catch me bumming a car, there ain't no searching if it's worth it. Tried to cross me like a martyr, brought that climbing to the surface. Pitching me rolling, skipping rocks over the stone lake. Thoughts sink to the bottom, but I still feel the bones break. Like a ship that sets sail, stranded in the wrong place. Like a snake eating its tail till it swallows. It's on face. What we come to, generational curses we still can't undo. Just taught my little girl to tie her shoes, now she running too. Holy smokes, lungs made of leather, now I'm comfortable. Climbing up this infinite ladder to get a better view. Every now and then I remember other lives. Staring at the crystal ball down the other side. Voilà, du coup, l'autre côté du continent américain, ils savent faire des trucs plus ou moins similaires, mais quand même différents.
C'est pas mal. Merci pour le rebond.
Et voilà, on fait ce qu'on peut.
Pour le coup, ce dernier son, ça m'a un peu moins sorti de ma zone de confort, quoi. Alors qu'Algiers, c'était vraiment il y avait vraiment de, ouais, des différences par, on va dire, par rapport à ce que j'écoute, mais j'ai quand même bien aimé. Puis c'est vrai que les différentes esthétiques à travers de l'album sont assez cool. Moi, ça m'a fait penser un peu à Putzmari dans la voix, puis ouais, ce côté un peu son, même si Putzmari c'est quand même un peu plus rock que hip-hop.
Alger, t'as des vrais morceaux purement post-punk qui sont très très rock pour le coup. Là, il n'y a pas de hip-hop non plus, quoi.
Mais en effet, la référence à Putzmari sur le morceau que tu... Il y a sur d'autres morceaux là de l'album, j'avais la ref aussi, ouais. Donc, comme quoi, ça passe vraiment dans plein de styles différents.
Jusqu'à chaque morceau, on pourrait trouver
des refs différents.
Ouais, des refs.
Là, il y a du Childish Gambino, on en parlait un petit peu aussi pendant l'écoute.
Des intermorceaux.
Des intermorceaux.
Eh bien, merci beaucoup, Steven, pour cette découverte de Alger.
C'est pas du rock, ça. C'est pas ça, le rock. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit.
Après ces deux découvertes, nous allons nous plonger un petit peu dans l'actualité du monde de la musique. Alors, on voit en ce moment un questionnement fort du monde de la culture sur son impact écologique. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez des choses à ajouter là-dessus, Steven?
Starting block.
Pardon. Il est prêt.
Non, oui, il y a énormément de choses. Enfin, ce qu'on disait, je pense qu'on va pouvoir y passer des plombes, mais on va essayer de faire court, concis et cohérent et intéressant, surtout. Globalement, si on veut parler du streaming déjà juste en tant que tel, il y a déjà pour commencer. Ben voilà, le streaming, c'est quand même la bande passante de l'Internet. C'est le même débat qu'avec Netflix, les vidéos allemandes, ainsi de suite. Il y a une vraie question qui se pose. Et je pense que c'est quelque chose qui est caché, que les gens ne voient pas, mais qui consomme énormément d'énergie.
Et là, qui ne pensent pas, en fait.
Et qui ne pensent pas, non. Non, clairement pas.
Après, il y avait le streaming, on va dire qu'avant, les vinyles, les CD, il fallait bien les produire, il y avait aussi...
J'aimerais bien avoir une étude comparative de la différence de production, de bilan carbone, en gros, de CO2, de la production de vinyle ou de CD, parce que vinyle, on sait que c'est dégueulasse, mais CD, et le streaming et tous les data centers qu'il faut pour que ça tourne.
À plus ou moins époque équivalente sur les hauts niveaux du streaming et sur les hauts niveaux de la consommation du CD, du vinyle.
Ouais.
Parce qu'en fait, c'est des époques qui sont incomparables. Finalement, où la consommation de musique, elle n'est pas du tout la même.
Après, pour le coup, les CD devaient peut-être mieux rémunérer les artistes que...
Ah bah alors ça, en même temps, dès que tu
dois... Au sujet, sûrement. Ça.
C'est ça, au sujet, tu fais 0,01% dès que tu fais 1000 écoutes, voilà, ça ne paye pas, quoi.
Bah, et puis de ça, tu vois, là, maintenant, la musique que tu écoutes, elle va être beaucoup plus sur du format vidéo, pour beaucoup, qu'on pense à du TikTok ou de l'Instagram même à un moment sur des formats courts vidéo. C'est de la vidéo, ça prend en bonne passante vachement plus que ce que tu vas pouvoir écouter au-delà du streaming sur un Spotify, Deezer, Qobuz ou autre. Du coup, tu consommes énormément, alors que assis le cul dans ton canapé à écouter un CD, je pense que tu consommes moins, mais peut-être que je me trompe.
Une fois qu'il est produit, il est produit. Donc finalement... Il est plus ou moins ad vitam aeternam.
Ouais, j'ai lu Brassens dans ma bibliothèque qui
non,
tourne.
Mais c'est ça,
non, mais vraiment.
Je pense que le truc qui pollue le moins, c'est d'écouter en stream toujours la même chose. C'est-à-dire l'enregistrer sur son...
Oui, l'enregistrer sur ton
ordi. Parce que c'est le fait d'aller chercher de la data qui consomme.
Une fois que c'est enregistré,
Voilà, on vient de détruire tout le principe de l'émission qui se veut sur la découverte, d'écouter les choses régulières. Moi, j'écoute Trio depuis 20 ans.
On avait dit pas de reggae.
Est-ce que Trio, c'est du reggae?
Voilà, sujet débat de merde.
Débat de merde. Donc là, non, du coup, il y a toute cette partie streaming. Et puis après, si on va réellement sur la partie concert, festival, déplacement à la fois des artistes et du public, là, il y a un sujet qui est monumental, parce que les festivals sont nés, la plus grande majorité, dans les 30 ou 40 dernières années, au départ sur des modèles qui étaient des modèles de « je suis le seul festival sur mon territoire » et donc j'arrive à attirer et à agglutiner énormément de monde et des gros artistes. Donc ça fait des entassements de monde qu'il faut qu'ils se déplacent de loin, pour certains. Encore maintenant, le Hellfest, il y en a qui viennent en avion pour venir au Hellfest, au-delà des artistes, des spectateurs aussi. Il y a après, au-delà de ça, tu as avoir 30, 40, 50 000 personnes à l'instant T sur un seul territoire aussi. Tu as les bagnoles à garer, tu as la bouffe. Quelle bouffe que tu vas produire Est-ce que tu produis vraiment de la bouffe de qualité, que tu proposes vraiment de la bouffe de qualité pour 30 ou 40, 50 000 personnes d'un coup? Donc c'est énorme. Et ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont poussé le bouchon, mais... Ah, le level up, quoi. Tomorrowland qui va faire une édition d'hiver dans l'Alpe d'Huez à 3300 mètres d'altitude, où ils montent les scènes en hélicoptère. Enfin, c'est à un moment, ils sont à leur deuxième édition.
La plaine, ils font pareil depuis déjà 10 ans.
Ouais.
Ouais, puis à côté, tu te retrouves à faire des festivals sous la tempête, sous la canicule. Donc là, pareil, gestion de l'eau, quand t'as une canicule et tout, il y a quand
oui,
même.
Oui, c'est le Hellfest l'année dernière où ils se sont retrouvés à dériver des réseaux d'eau, en fait, pour les habitants de Clisson, pour les gens du Hellfest. Enfin, je sais plus, c'était invraisemblable, t'es là, mais en fait, là, vous êtes en train de priver des gens et des cultures qui ont besoin d'eau à un instant T pour des festivaliers. Enfin, quel est le lien? Mais après, tu vois, il y a ça, il y a cette gestion-là, et après, il y a aussi les petits festivals, comment ils s'en sortent dans cette histoire, tu vois?
Bah, en vrai, les petits festivals, je pense que c'est cette sont à la recherche d'une nécessité de sobriété, qui est un truc qui revient quand même de plus en plus souvent. Il y a une étude qui est lancée à l'échelle nationale sur, alors pas tous les festivals, mais sur un panel de festivals, qui s'appelle Déclic. Je vous inviterai à aller voir, qui est géré par et soutenu par le SMA et la Fédélima. L'idée, c'est d'avoir un bilan carbone à l'horizon 2025-2026 des principaux festivals de ces syndicats et de ces collectifs-là. Donc, on ne va pas retrouver les gros festivals. Des festivals à taille humaine, des festivals qui font grosso modo de 3 000 à 4 000 à 15 000, 20 000, et on va avoir un bilan carbone, et l'objectif de savoir ce bilan carbone là précis, autrement de dire que bah oui ça consomme, on le sait, c'est de donner après des objectifs chiffrés
globalement,
où est-ce qu'on veut aller quoi.
C'est la direction chiffre project
ouais,
quoi.
C'est la direction chiffre project, bah ils sont accompagnés par le chiffre project de toute façon. Donc, et là-dessus il y a de plus en plus de dynamiques qui sont mis en place, à l'échelle de la région Pays de Loire, le pôle essaie de mettre en place aussi des choses sur le calcul de ce bilan carbone là, comment est-ce qu'on calcule correctement et comment est-ce qu'on se donne des objectifs. Mais du coup ça pose la question de ces grosses machines et ces gros festivals qui d'une part consomment et en plus détruisent un territoire en tant que tel, parce que à moyen long terme ça détruit quand même la vitalité de ce qui se passe autour. Donc comment est-ce que tu arrives à associer à te dire bah ça marche, et comment est-ce que tu arrives à l'arrêter ou à le freiner ou à le rendre un peu plus intelligible pour que tout le monde arrive à avoir cette sobriété là heureuse en tant que tel, et en arrivant à proposer des artistes découvertes sans avoir besoin de faire venir des grosses machines.
Oui, parce que t'as les petits aussi, la taille d'un festival, un petit festival va drainer des festivaliers de moins loin aussi, donc il y a aussi ce côté de les trajets vont être plus courts, alors plus
du local.
Ouais, et puis plus tu grossis, du coup plus tu veux ramener du monde, donc tes têtes d'affiche ça va être des gros noms, donc qui vont faire venir de loin et en même temps faire venir les festivaliers de loin. Je pense qu'il y a un petit peu la croissance d'un festival joue quand même beaucoup là-dessus.
Tu voudrais dire que la croissance n'est pas bonne pour l'écologie?
En tout cas, croissance verte.
Dans le monde des festivals, il y a quand même une grosse réflexion sur est-ce que on veut toujours grossir? Est-ce que c'est un but de toujours vouloir grossir d'un point de vue ta jauge, ou essayer de consolider une jauge?
Bah, et la réduire même.
Ouais,
oui, même certains qui l'ont réduit. Enfin, oui. Tu vois, Panorama vont passer, alors je sais plus, d'une jauge à 20 ou 30 000 à une jauge à 5 000. Donc, ils ont divisé par 4 leur jauge et changé de date, parce que justement, ils voulaient d'une part arrêter la tête aux têtes d'affiche, et ils l'argumentent aussi d'un point de vue écologique que à un moment, c'est plus tenable. Quoi. Et ils vont pas être les seuls. C'est peut-être les premiers, mais c'est pas les seuls.
Et économique. Mais du coup, il y a aussi ce truc, tous d'accord pour faire des festivals locaux, etc. Enfin, c'est cool. Mais toi, il y a toujours ce truc, entre guillemets, de trouver le coupable ou pas. Je sais pas, toi, on sait jamais qui est le coupable, mais comment on fait, en fait, pour attirer aussi un public, en fait, avide de découverte, assez large?
Oui, parce que
parce qu'en fait, il y a ça aussi.
Il y a beaucoup de gens qui vont en festival aussi.
Pour des têtes d'affiche.
Pour des têtes d'affiche.
Sans conscience écologique.
Oui. Et puis ils vont pas tant au festival pour découvrir, mais ils vont au festival pour voir les artistes qu'ils connaissent déjà.
C'est ça, tu vois. Enfin, nous, on se pose les questions. Enfin, nous, le monde de la culture en général va se poser les questions, que ce soit Panorama ou d'autres festivals plus ou moins lointains dans la région. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait de nos programmations? Qu'est-ce qu'on fait pour le public qui attend un certain style de programmation? Est-ce que en fait, la plupart des gens ils veulent voir Aurel San? Ils veulent pas voir le groupe de pop expérimental de on sait pas où, quoi. Tu vois?
Bah, est-ce que, et en même temps.
Et comment on fait pour éduquer aussi à ça?
Ah bah, on le fait au quotidien. Enfin, tous les festivals le font au quotidien. La plupart, en tout cas, des festivals le font au quotidien. Il y a un vrai boulot qui est fait au local. Il y a un vrai boulot qui est fait avec les publics pour éduquer. Mais en fait, c'est tu te sens désemparé de comment est-ce que tu arrives à aller à l'encontre d'un business, à l'encontre comment est-ce que tu arrives à accrocher les gens, les jeunes ou ainsi de suite, sur allez, découvrez des trucs, venez en festival sans connaître la moitié des projets et des groupes.
Et c'est ça.
Allez-y, quoi.
Comment on arrive à ça?
On n'a pas la solution miracle, je pense qu'on a plein de pistes.
La fin du capital.
Non, mais c'est faire. En fait, un festival, c'est pas. Enfin, moi, je considère pas que c'est qu'une programmation, il y a aussi une ambiance. Il y a avec qui t'y vas, et ça joue beaucoup.
Ça joue beaucoup. De toute façon, je pense qu'il faut maintenant aller dans la direction de l'expérience festival pour attirer aussi du public.
C'est ce que tout le monde fait. Et les gros, ils sont encore plus précurseurs parce que du coup, ils ont moyen de le faire.
C'est ça.
Donc en fait, les petits festivals n'ont pas les moyens de se battre.
En fait, c'est ça, on est vraiment dans le serpent qui se bouffe la queue. Où en fait on se fait bouffer par.
C'était presque
la bonne expression. C'était pas tout à fait ça. Mais c'est bon, ça va. Mais voilà, en fait, où t'es battu par le propre système, quoi.
Bah, comment après, en fait pour. Sinon, t'as aussi le côté les têtes d'affiche. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, ça coûte trop cher, beaucoup trop cher, parce que ça ramène du monde. Donc du coup, ça devient inatteignable pour des festivals qui, au local, pourraient réduire leur jauge et faire complet facilement avec cette tête d'affiche-là, ça coûtait moins cher. S'il n'y avait pas les exclusivités qui se mettaient en plus par là-dessus. Voilà. Donc en fait, tu te retrouves avec tout un système capitaliste, ok, c'est clairement ça, hein, je fais une tête d'affiche, je veux pas qu'elle joue dans un rayon de 300, 400, 500 km, donc je mets un coût en plus pour pas qu'elle joue ailleurs, pour attirer des gens d'encore plus loin, et en fait ce système là il va falloir qu'il arrive au bout. Ce qui m'inquiète, moi, c'est que les gens, et je sais que je parle de généralité alors que c'est pas le vrai pour plein de gens, hein, et peut-être que aucun de ceux qui nous écoutent, évidemment, n'ont cette notion-là.
C'est sûr.
Mais ils ne se rendent pas compte. En fait, c'est de la prise de conscience, en fait, de ce truc-là. C'est que, je vais en festival voir l'artiste que je connais, m'emmerde pas. Je comprends. Hein.
Et c'est tout à fait normal, en fait.
Moi, le premier, je l'ai fait des tonnes de fois. Quoi. Je suis monté à Dour en bagnole plein de fois pour aller voir un truc et je vais le refaire.
Je diguette en avion pour passer une semaine de festival à 500 000 personnes. Quoi.
Ouais, la porte est là, par contre.
T'as pas honte.
J'étais encore jeune et insouciant. Mais il y a aussi le côté où ta tête d'affiche que t'as signée en exclusivité en mettant un cachet pour pas qu'elle tourne à 500 km, elle va venir avec 25 smirmorques. Pour avoir la scéno, ses feux d'artifice et tout le bousin.
Tout le monde fait par Rammstein quand même, mais.
Indochine,
ça marche aussi.
Dans l'idée, c'est ça, quoi. Il y a aussi le. Ça va être vieux con, alors je suis très jeune, mais j'ai l'impression que, fut un temps, en festival, c'était plus succès, on va dire.
Tu viens, t'as la batterie, tes amplis, et puis
Non, mais.
Grosse casquette, clair.
En fait, c'était un festival qui accueillait l'artiste. Alors que maintenant, c'est l'artiste qui déplace vraiment tout son matos. Je sais pas si vous ressentez comme ça.
Complètement, mais de toute façon,
ça devient un peu la logique Zénith.
C'est la course à l'armement. Du coup, faut faire du show énorme avec des trucs énormes. Alors, pareil, encore une fois, c'est généralité. Il y en a qui prennent le chemin inverse. Mais ça devient de plus en plus.
Et en fait, on en revient au début du débat. En fait, pourquoi il se passe ça? Parce que les artistes, ils sont plus rémunérés par leur vente de disques.
Oui,
en fait, ils sont obligés d'avoir un show de ouf, d'en faire plus souvent. Ils sont obligés d'être plus souvent sur la route et de faire le plus gros show possible pour les gros, en tout cas, quoi.
Ouais, pas que. Enfin, je pense que oui, c'est une des raisons.
C'est une des raisons, en tout cas.
Il y a aussi. Moi, j'ai l'impression.
Il y a une demande aussi.
Ouais, il y a une demande du public d'avoir ce genre de show-là, d'avoir ces trucs-là. Ça crée une habitude. Et du coup, pareil, les petits événements, même moyens, n'arrivent plus à suivre parce que techniquement, c'est pas faisable. Et puis, ceux qui se posent réellement les questions écologiques derrière, ils disent non, on va pas louer un groupe électrogène en plus pour faire tourner je sais pas combien de bousins de lumière, quoi.
C'est sûr.
C'est sûr.
C'est le serpent qui se mange l'arrière-train.
Merci de répondre.
Merci Simon pour cette très belle phrase de conclusion. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour ce sujet d'actualité.
Con, grosse casse-casse claire.
Alors, ça va être au tour de Simon de nous présenter son artiste, ou même ses artistes, il me semble.
Non, mon artiste, quand même, ouais, je vous ai fait des feintes un peu dans la préparation de l'émission, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de l'artiste que j'ai le plus écouté en 2021 et en 2022, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est le désormais traditionnel bilan de fin d'année de Spotify qu'on connaît tous maintenant, et il semblerait que j'ai écouté Nerlove, donc l'artiste dont je vais vous parler, de manière un peu abusive en 2022 et 2021. Il y aurait entre autres son morceau Prophétie que j'aurais soi-disant écouté 75 fois sur une année.
C'est un truc avec des coiffeurs.
Admettons.
CRS coiffeur, je sais plus.
Donc, en effet, je vais vous parler de Nerlove aujourd'hui, qui est, vous l'aurez compris, un artiste que j'affectionne tout particulièrement.
Et je vais profiter aujourd'hui de la sortie d'un nouveau single pour en parler. Alors, je pense que c'est pas le meilleur morceau qu'il ait fait de sa carrière, ça c'est mon humble avis, mais je pouvais pas passer à l'occasion de profiter de ce petit événement qui est la sortie d'un single de Nerlove pour vous en parler. Alors Nerlove, c'est un chanteur, producteur, bassiste angevin, pas inconnu car on l'a déjà croisé dans d'autres projets comme Son Carole ou notamment les excellents Vedettes pour ceux qui connaissent, qui était déjà un groupe que je trouvais bien cool. Quoi.
Mais rien prometteur. À voir avec Nerlove pour le coup,
prometteur.
C'est ça qui est cool.
Et ben bah, parlons-en. Après, j'ai réécouté la fin de Vedettes et ils ont sorti des morceaux à la fin de Vedettes qui commençaient à amener les prémices d'un Nerlove quand même.
Pour
je pense au morceau Tuer les gens. Notamment, qui commençait un petit peu à être un peu. Vous allez voir de ce dont je vais vous parler tout à l'heure.
Ça sonne bien en tout cas.
Tuer les gens,
ouais, une solution au débat qu'on avait avant. Tuer les gens.
Vous êtes en train de chier sur ma chronique, putain.
Pardon, Simon.
Alors, Nerlove, je pense que c'est pour un mélange entre énervé et love, pour le nom. Je l'invente un peu, mais en même temps, je pense que ça aurait quand même du sens, car en deux EP, Nerlove a trouvé sa patte. Une musique pop teintée d'électronique et une ambiance entre mélancolie absurde et colère libératrice. C'était écrit.
Oh.
Son EP, Je vous aime tous, sorti en 2020, contient de petites merveilles à mon sens, comme quelques morceaux que je vous cite. Je vous aime tous, évidemment, Dégénéré, Piste noire, Si on brûlait tout, Banksy, ou encore l'excellent Je ne suis pas juge. Voilà, je viens de vous citer les 7 morceaux de l'EP. Vous l'aurez compris que c'est vraiment un EP que je vous conseille grandement d'écouter. En 2021, il sort Prophétie avec 6 nouveaux titres. Et dans ce nouvel opus, on sent une légère évolution dans le projet quand même avec certains titres qui tirent gentiment vers une musique de club, donc une musique un peu plus énervée. Et donc il y a 4 jours, Nerlove a sorti son nouveau single, un single en featuring avec Magenta, titré DPT. Pour des petites traces. Alors, rien à voir avec la drogue pour une fois dans un morceau de Nerlove. Il n'y a aucun lien. Mais ça parle, je cite, des blessures psychologiques que l'on accumule dans notre cerveau chaque jour et un peu plus, facilitées par une société toujours plus violente et anxiogène. Un hymne à la bienveillance entre êtres humains et pas que, et à la question du déni des habitants du monde, d'un monde au bord du gouffre. Pardon. Et c'est des thématiques qui sont hyper souvent abordées par Nerlove dans ses différents morceaux et dont Tuer des gens de Vedette parlait. Voilà, là le serpent se mord la queue vraiment. Et voilà, je vous laisse écouter ce morceau qu'il a sorti avec Magenta.
Ah bah mince, tout est gâché, je ferais peut-être mieux de rester caché dans un bunker pour les 50 prochaines années. Mais c'est toujours après, une fois que le mal est fait, que tout est à réparer, qu'on s'écrase. Toujours tout seul, même entouré, c'est la base. Je veux pas de toi dans ma bande, ouais, t'es trop naze. C'est pas gentil de dire ça, même si des fois on pense, on devrait le garder pour soi. Ça blesse, ça blesse. Changer. J'ai toujours un peu la rage malgré les années, mais chaque jour un peu moins sûr. On recule ou on avance, douter c'est devenu dur. Comment ça va ta France? Tous les bandits, ça fait flipper.
Qu'est-ce qu'on attend? Dis pour leur dire de la fermer. On va finir comme ça, comme les dodos, les pandas. Non, c'est pas rigolo, mon gars. Quand est-ce qu'on sort de là? Ça merde. Ça, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Ça, ça m'emmerde. Ça m'emmerde, ça m'emmerde. Ouais, ça m'emmerde. Tout ça.
C'était, c'était Nerlove et Magenta avec le morceau DPT qui est sorti il y a 4 jours seulement.
C'est tout frais.
C'est vraiment tout frais et j'avoue que j'ai encore un peu de mal à avoir du recul sur ce morceau.
Mais ça me tenait
à cœur de vous en parler quand même. Non, alors, si je dis pas de bêtises, c'est le deuxième featuring que fait Nerlove. Il avait déjà dû en avoir
Magenta.
Un dans son... Comment?
Avec Magenta.
Non, avec Magenta, c'est le premier. Il devait
avec,
déjà.
Avec Stav, il en a fait
avec Fauve. Avec Stav.
Non, il y avait eu un featuring avec Stav, je crois, sur le premier EP. Ouais. Donc, c'est un artiste qui fait finalement assez peu de featuring. Et je sais pas, j'avoue que c'est pas son meilleur titre selon moi. Même si je l'ai écouté beaucoup de fois en 4
jours,
voilà,
quand
même.
Déjà, quoi.
Ouais, moi, je trouve que l'univers de Nerlove, enfin, l'univers de Nerlove et Magenta, en tout cas sur cette chanson, je trouve que ça matche bien. Mm-hmm. Au niveau des voix, enfin, moi, j'aime bien Magenta. Bon, après, j'adorais Fauve, donc.
C'est pas bien de causer. J'aimais beaucoup Fauve. Hein.
Ouais, pareil, j'aimais bien Fauve, mais Magenta, non.
Mais après,
moi, je retrouve quand même beaucoup plus la patte Nerlove que la patte Magenta sur le morceau.
Là, pour moi, c'est vraiment Nerlove et la voix de Fauve qu'on a quasi pas dans Magenta, sa petite voix éraillée et tout, je trouve que dans Magenta, on est vraiment sur des prods hyper différentes, il force jamais sa voix,
c'est vachement
super
plus club.
Pour se défouler en soirée, Magenta, ça marche très bien.
Ouais.
Pour le lendemain pleurer, on met du Fauve et puis c'est parfait. Faire
ta vie avec Magenta et Fauve, quoi. Okay.
Si tu cherches encore le Blizzard, c'est pour ça.
Ouais, toujours, toujours.
Non, du coup, j'avais quand même une petite question à vous poser après ce featuring, finalement. Selon vous, quel est le meilleur, si vous devez garder un featuring de l'ensemble de votre existence?
Céline Dion Garou. Hein.
Céline Dion Garou.
Non, en vrai, non,
c'est
clairement
pas. Prévisible. Je m'attendais
à cette
réponse.
C'est hyper dur.
Ouais, là, comme ça, j'y arrive pas.
Moi, c'est Caballero feat Jean Jass.
Merci.
Easy. Tu nous laisses 3 secondes.
Ouais.
Au pire, on peut revenir à la fin.
Ouais, on y revient à la fin.
Non, mais je trouve. Oui, carrément.
À la place du débat de merde, on se dit chacun notre. En tout cas, un feat qui nous a parlé.
Parce qu'on peut avoir un débat très longtemps aussi sur les featuring. Je pensais qu'on pourrait en causer, mais là, on va peut-être manquer de temps. Il y en a trop de sujets de discussion.
Ouais, mais une prochaine émission.
Tout à fait.
On peut causer du featuring, hein, c'est un sujet tellement vaste.
Céline ou Garou?
Non, pardon, désolé, j'aurais mieux fait de me taire. Ok, ça marche. Je voulais avoir une réponse absolue. Quitte à ce que ce soit une réponse de merde.
Est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur... sur le featuring de Magenta
Moi, Nerlove, du coup, j'ai pu voir en concert plusieurs fois. J'ai découvert, j'avoue, au Printemps de Bourges, sur les Inouïs, et il m'a foutu une bonne claque en live. Autant à l'écoute, je trouvais ça bien, mais pas non plus le truc de fou qui m'a bousculé. Autant le live, il a un putain de charisme, il y a un truc qui fonctionne bien, tu vois d'où il vient, tu vois qu'il vient plutôt du rock et du hardcore que de ce qu'il fait maintenant. Et en fait, à l'écoute, ça s'entend pas, et sur scène, ça se voit, et ça rend hyper bien, il est hyper attachant, il est hyper impliqué dans sa musique. Enfin, c'est vraiment chouette. Si vous avez l'occasion de le voir en live, c'est cool.
C'est que ça fait partie de ce genre d'artiste où quand tu les écoutes, t'aimes bien, puis tu les vois en live, et le live apporte vraiment une plus-value à sa musique, quoi.
Mais c'est vrai que souvent ça, quand même.
Ouais.
Souvent quand même, le live, ça amène une plus-value.
Oh non,
pas tout le temps.
Oh non.
Ouais, moi je trouve quand même.
Contre-exemple. Contre-exemple ici.
Voilà, t'as bien un artiste de rap que tu vas trouver qui est quand même pas ouf en live.
C'est vrai, Lélo. C'est
voilà.
C'est con de.
C'est lancé, par exemple. Lélo.
C'est con de taper sur le rap pour ça, mais c'est vrai.
Bah, pas tous les artistes de rap, hein. DC's, à l'inverse, en live, c'est fou.
C'est ouais.
Mais, tout autant que l'album que j'ai le plus streamé en 2022.
J'ai trouvé mon featuring. Ah oui.
Bah dis-nous, t'en as trop dit.
Disclosure avec Fatoumata Diawara.
Oh,
il est très beau ce feat.
Oh là là.
Voilà.
Derrière les fagots celui-là.
C'est beau.
Je suis allé dans mes playlists en même temps, je joue playlist de 2018 et c'est assez frénétique. Mais ouais, c'était bien.
Mais je te rejoins complètement sur le live de Nerlov. C'est vrai que j'avais beaucoup écouté. La première fois que je l'ai vu, je me disais waouh, ça va être. J'aime bien en écoute, mais sur scène, je sais pas parce que le premier EP est quand même très calme. Et le live est vraiment très club, et bah, c'est hyper énergique.
C'est
il a une attitude
seul avec
sur
un
scène
batteur, ça marche bien quoi.
Et la batterie ramène évidemment vachement de dynamisme aussi au live, et ouais, en effet, son attitude y est pour beaucoup aussi. Il y a vraiment un truc un peu provocateur dans son attitude en petit boxeur et tout là, qui fonctionne vraiment très très bien. Je ne peux qu'appuyer ce que vient de dire Steven sur le fait de il faut voir Nerlov en live.
Il faut toujours voir Nerlov en live, et ou sinon derrière le bar du Joker's Pub à Angers.
Oui.
C'est bien aussi. C'est une belle expérience.
Ça va être de plus en plus rare maintenant.
Oui, c'est vrai.
Il a fait un feat avec Magenta.
Mais voilà, mais quand même, c'est à voir aussi. Pendant qu'on y est, c'est pas, je pense, mon feat préféré, mais j'en ai trouvé un qui est vraiment très bien. C'est Salomon avec Isolation Berlin.
Ah putain, je le connais pas celui-là.
C'est vraiment, c'est vraiment un pur morceau. C'est Créature der Nacht. Un morceau en allemand.
Je me note ça de suite.
Faut noter ça, c'est vraiment trop bien. C'est Dance Floor 4h du mat.
Ouf.
Voilà,
Ariel le parquet.
C'est soirée techno berlinoise.
Très bien, et bien merci beaucoup à tous. Merci à Simon pour cette découverte de Magenta Fit Nerlov avec DPT.
Je vais toucher l'anti-accord absolu. Vous entendez? Absolu. La musique des sphères. Mais qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre, homme singe?
Alors, ça va être à mon tour de vous présenter ma petite pépite du moment avec MPL. Alors, MPL, c'est l'acronyme de Ma Pauvre Lucette, le saviez-vous?
Oui.
Donc...
Non. Et tu savais que TAF, c'était travail à faire. Voilà, merci.
Et donc, j'ai découvert une fois n'est pas coutume en me laissant porter par une playlist Deezer, comme quoi ça peut avoir du bon. Alors oui, moi, je ne suis pas sur Spotify, je suis sur Deezer. Voilà. Donc c'est un groupe de 5 gars créé en 2012 avec un style chanson française. Niveau instru, c'est du grand classique, guitare, basse, batterie, clavier avec un chanteur. Mais je dois avouer que ce groupe me touche particulièrement, que ce soit au niveau des textes, alors qu'ils peuvent être un peu cucu sur les bords, je vais pas vous mentir.
Cucu la praline.
Ouais, cucu la praline, ouais. Mais ce qui me plaît surtout, c'est la tendresse avec laquelle ce groupe de trentenaires se livre sur ses sentiments. Et puis, pour une fois, je trouve qu'il n'y a pas que du sentiment amoureux, parce que ça peut être beaucoup ça. Enfin, on a beaucoup entendu ça, en tout cas, des gens qui se livrent sur leurs sentiments amoureux. Bon, c'est sympa, mais là, ça change un peu. Ça parle un peu d'enfance, de famille et tout ça. Et j'aime beaucoup la tendresse avec laquelle ils le font. Bon, ils font aussi des chansons qui parlent de love, évidemment. Et puis, par moments, je m'identifie quand même un petit peu à leurs chansons avec un peu de nostalgie, un peu de spleen. Et je trouve ça assez calme et reposant. Et des fois, ça m'émeut, je ne vais pas vous mentir. Et donc, ils ont sorti leur troisième album à l'été 2022 qui s'appelle Bonhomme. Et donc je vous laisse tout de suite avec l'émouvante chanson Sur une échelle.
Sur une échelle de 1 à 10, dis-moi comment t'as mal. Si c'est trop dur, j'appelle tout de suite les gens de l'hôpital. Sur une échelle de 1 à 10, dis-moi comment t'espères que tes arrière-arrière petits-enfants ne connaissent pas la guerre. Sur une échelle de 1 à 10, les chances qu'on se revoie, elles ne sont pas bien grandes, et tu le sais aussi bien que moi. On se le dira pas, mais on y pense fort tous les deux. Tout ça ressemble de toute évidence à des adieux. T'aurais voulu que je te présente une fille, mais je suis venu seul. Tu l'aurais reçue comme une reine. Tu lui aurais raconté comme toi aussi t'étais belle, en me faisant des clins d'œil. De 1 à 10, dis-moi comment t'as peur quand t'es toute seule et que tu crois entendre sonner ton heure. Sur une échelle de 1 à 10, dis-moi comme tu te souviens les confitures pour le goûter, l'été et les cousins. Sur une échelle de 1 à 10, je te mets la meilleure note pour la grand-mère que t'as été, mais je vois bien que tu t'en moques. J'aurais voulu rester encore, mais je crois qu'il faut que je rentre. La vie m'appelle et tu sais comme faut pas la faire attendre. T'aurais voulu que je te présente une fille, mais je suis venu seul. Tu l'aurais reçue comme une reine. Tu lui aurais raconté comme toi aussi t'étais belle, en me faisant des clins d'œil. Derrière et trois pas sur le côté.
J'espère que ça vous a reposé pour cette fin d'émission. Je sais que certains autour de cette table préfèrent leur krautrock underground berlinois, mais un peu de tendresse dans cette pièce, ça fait pas de mal.
MPL avec de la choucroute, je sais pas non. Hein.
Bah, après, c'est toi, les goûts, les couleurs. Quoi. C'est comme ça. Moi, ça m'accroche pas. Mais je peux y comprendre ce truc de tendresse, d'attachement. Parce que toi, au-delà de notre crotrock, de tout ce que tu veux en dire,
il y a un cœur en dessous.
Il y a un cœur, bah, bien sûr qu'il y a un cœur, il y a toujours un cœur. Moi, mon album préféré de 2022, c'est L'amour de This Is. Bref, c'est pas ça que je voulais parler, mais voilà, ça l'est
toi,
quand même.
C'est encore que du love.
Que du love. Mais tu vois, par exemple, un album que j'ai beaucoup écouté en 2021 et 2022, c'est le dernier album de Ben Mazuet, quoi. Mm. Qui peut, d'une certaine façon, se rapprocher de ce que fait MPL, tu vois, enfin, finalement c'est de la chanson à texte plus ou moins écrit.
Tu t'enfonces.
Plus ou moins écrit pour certains, mais voilà, tu vois, enfin, c'est que tu trouves ce que tu veux y trouver, je pense. Moi, au moment de l'écoute de Ben Mazuet, ça a été quelque chose de hyper révélateur des moments de vie ou autre. Et tu vois, genre MPL, ça doit exactement être la même chose pour la personne qui l'écoute et qui y trouve son intérêt. Donc voilà, donc c'est quelque chose de bien. Et en fait, c'est ça qu'il faut en dire.
Mais
moi, ça me parle pas.
C'est pas mauvais. On n'a pas dit que c'était mauvais.
Non, moi, ça me parle pas. Mais il y a forcément des gens qui trouvent ça super et ça leur parle, en fait.
Ah bah, je préfère que largement que des gens écoutent MPL que plein d'autres trucs.
Bien sûr,
en vrai, c'est pas mal écrit. Musicalement, c'est pas totalement mauvais.
Non.
Totalement.
C'est violent.
Pardon, désolé.
Non, mais et puis bah, je pense que le côté que ce soit pas ultra connu ajoute un petit peu de cachet.
C'est quand même plutôt connu. Je suis allé vérifier là, du coup, ils sont pas loin du million d'écoutes quand même sur Spotify. Hein.
Ah ouais, ah ouais, mais sur Deezer, il y a moins du coup.
Ça commence à être quand même plutôt bien connu.
Ouais, mais enfin, on les voit pas tourner partout, ils sont pas là, dans tous les festivals du.
Non, parce que je pense que justement, les gens sont. Ou les programmateurs, programmatrices sont peut-être, comme nous, un peu trop obtus. Et alors que c'est un projet qui, je pense, pourrait fonctionner sur du festival et de l'événement, ou même de la salle, et qu'ils sont pas programmés forcément parce qu'ils ont pas encore peut-être eu le petit truc du Ben Mazoué qui a tourné ou autre. Alors qu'il faudrait peut-être.
Ben Mazoué, c'est le genre d'artiste identifié. C'est des artistes à un nom, quoi. Alors que là, c'est un groupe. Et je trouve ça aussi que j'aime bien, c'est le fait que ça soit un groupe. Et du coup, tu sens que ça parle d'un. C'est un groupe qui parle quand dans leur texte. Alors que quand c'est. Ben Mazoué, je sais pas, Gaël Faye, encore malade. C'est des. Ils parlent
le triple album.
Ouais. J'ai eu ça qui m'est venu en tête.
Ils ont fait combien d'albums MPL, là, du coup?
C'est leur troisième, là. Pour le coup, en découvrant le troisième, j'ai écouté le deuxième. Il y a vraiment, il y a des sons très cool. Il y en a aussi d'un peu plus péchu et tout. Et franchement, c'est.
Et puis ça parle quand même de sujets quand même assez cool. Enfin, tu vois, moi, pour un peu l'après écoute de l'émission, je suis tombé sur le morceau Bonhomme, qui est, c'est une poésie assez simple, mais en vrai, ça parle de sujets quand même hyper chouettes et de sujets aussi actuels. Tu vois, Bonhomme, toi, je l'ai écouté, je fais. Ouais, comme ça, là, ça me parle direct.
Ouais. Et puis c'est très imagé comme texte et tout. Et ouais,
Non, mais c'est pour ça que ça n'a pas besoin d'être compliqué pour que ça te touche et pour qu'à un moment ça fonctionne. Et je pense que ouais, c'est ça, pour en avoir écouté un peu aussi, c'est clairement ça. C'est pour l'écouter, je pense, au bon moment de sa vie, ou là où ça te parle le plus, pour que ce soit un groupe qui te marque et qui te reste.
Bah, moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec Ben Mazoué, j'imagine, toi, pour MPL. Quoi.
Moi,
ce qui me déroute un peu, c'est le côté. Je trouve qu'il y a un gros renouveau de la chanson française, quand même, globalement, en ce moment. Et là, je trouve que ce. Pourquoi vous rigolez comme ça?
On parle de Belvoir.
Non.
À Beyrouth, moi, mais du coup, ça marche pas. Pardon,
non, je trouve que. Et là, je trouve vraiment qu'il y a. Comme on disait, les textes, moi, je les trouve c'est pas forcément ma cam, mais c'est plus dans les prods et les arrangements du morceau qui sonnent assez vieillottes, je trouve. C'est vraiment. Je sais pas, j'ai un petit peu de mal. Ça me fait beaucoup penser à Volo aussi, qui est un groupe que j'ai vachement écouté au lycée et que j'ai pu voir en concert il n'y a pas très longtemps. Et j'ai adoré, mais parce que je pense qu'il y avait le côté un peu nostalgie de l'avoir vu il y a longtemps. Si tu me disais que cet album était sorti il y a 15 ans, je trouverais ça cool. Mais j'ai l'impression que là, ça... Non, mais c'est peut-être... Enfin, je sais pas si c'est...
Non.
Mais je trouve que les prods, ça sonne vraiment un peu old school. Et...
Ouais, ça sonne 2010, La Ruquette...
Non, mais un petit peu, mais.
C'est typiquement le genre de truc où moi, j'ai pas la culture, je pense, pour apprécier MPL. Parce que j'ai pas eu toutes ces écoutes-là avant, quoi. J'ai eu les trucs de krautrock allemand, mais que personne n'écoute. Et du coup, j'ai pas cette culture-là, donc c'est un truc qui me manque. Tu viens de combler un manque dans ma vie.
Ouais, j'espère bien. C'était tout le but de cette présentation.
C'est bien de se partager des choses quand même.
On s'aime.
Oui.
On peut se dire.
Ce que l'on s'aime, c'est une chanson de trio. Attention, on n'avait dit pas de reggae.
Oh là là, on dérive.
Bon, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette émission.
Ouais. Donc, merci à tous les gars pour vos présentations. Donc, je vous rappelle, il y avait Léo qui nous a présenté Redolent. Il y avait Steven qui nous avait présenté Algier. Simon qui nous avait présenté le featuring entre Nerlove et Magenta, enfin il voulait surtout parler de Nerlove. Et donc et donc moi qui vous ai présenté le meilleur album de tous les temps, je pense, c'est donc MPL. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. C'était au catering.
Ah, ce qui est sûr, c'est que le catering, c'est une restauration tout à fait particulière.
Grosse caisse claire.
Ah, Chris, belle Chris, bravo.
C'est pas du rock, ça. C'est pas ça, le rock.
Yaka Nakamura.
C'est ça, le rock.
Con, con, con.
Yes, sir.
Ah, c'est le signal pour la soupe, Sam.